Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Évangile de ce jour nous présente deux miracles. Et on aurait pu se dire, pourquoi deux miracles alors que d'habitude, ou disons le plus souvent, il n'y a qu'un miracle et cela nous suffit amplement. Bien, peut-être est-ce pour justement faire la différence entre ces deux miracles et voir ce qui les sépare et ce qui finalement, dans le deuxième, eh bien, est plus important que le premier. Le premier ne servant qu'à mettre en valeur finalement ce deuxième miracle. Il y a beaucoup de choses similaires entre les deux. Et tout d'abord, la démarche de chacun des deux qui viennent demander au Christ un miracle. Deux démarches similaires du lépreux et du centurion. Le premier vient se prosterner devant lui. Le deuxième s'approche de lui. Dans les deux cas, voyez-vous, il y a une véritable démarche qui n'est pas seulement une démarche intérieure, mais qui est manifestée dans l'Évangile par cette démarche extérieure. Ils viennent au-devant de notre Seigneur. Et on pourrait se dire, eh bien voilà, voilà bien la place de l'homme, c'est lui qui doit, dans sa conversion, aller vers le Seigneur. Cela n'est pas faux, mais cela oublie que c'est d'abord notre Seigneur qui vient. Le Christ aussi est en mouvement. On nous dit au début de l'Évangile qu'il descendit vers cette ville. D'abord, notre Seigneur se rend proche des hommes pour qu'à leur tour, ceux-ci puissent venir à lui. Si le Christ n'était pas venu, il n'aurait pas pu, en vérité, s'approcher de notre Seigneur. La première fois, le Christ descendit. La deuxième fois, il est dit que c'est lorsqu'il entra dans la ville. À chaque fois, il y a donc un double mouvement, celui du Christ qui descend, du Christ qui descend donc, si on prend les choses de manière spirituelle, du ciel pour venir sur la terre, et puis celui qui entre également dans la ville, à savoir celui qui entre dans notre monde. En effet, nous sommes encore dans cette période de Noël où nous contemplons toujours le mystère de l'incarnation. Qu'est-ce que le mystère de l'incarnation, si ce n'est celui de la descente du Verbe de Dieu qui vient en ce monde, si ce n'est cette entrée de Dieu dans le monde par cette incarnation, par ce mouvement de Dieu qui s'unit à une chair pour être l'un d'entre nous. Aussi, par son incarnation, il rend possible le fait de s'approcher de lui en vérité. Et ce n'est pas seulement dans ce double mouvement qu'il y a une belle correspondance. Nous voyons ici une restauration de l'harmonie du paradis terrestre. Le Christ est proche des hommes, les hommes sont proches de Dieu. Et bien, c'est ce qui se passait au paradis terrestre avant la chute. Cette proximité de Dieu et des hommes. Mais cette proximité, on peut dire par l'incarnation, au Felix Culpa, elle est encore plus grande qu'au paradis terrestre. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut méditer souvent pour pouvoir rendre compte un petit peu de l'état de notre monde. Ce n'est pas parce que notre monde est encore plongé dans le péché qu'il n'a pas obtenu cette harmonie totale avec Dieu qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas beau. Au contraire, et il faut souvent se le rappeler, l'ordre qui est le nôtre, l'ordre de la rédemption, est un ordre supérieur à celui de la création, malgré le péché. Pourquoi ? Parce que, nous le voyons ici, la proximité de Dieu avec les hommes est encore plus grande que celle qu'il y avait dans le paradis terrestre. Deux demandes de guérison. Ce ne sont pas seulement deux mouvements, ces deux qui viennent demander un miracle, c'est véritablement une demande de guérison dans les deux cas, explicite de la part de celui qui est le lépreux. « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Reconnaissance absolue de la puissance même de notre Seigneur. Le lépreux sait, le lépreux croit, croit que le Christ peut le guérir. Cela dépend d'une seule chose, non pas de ses dispositions intérieures, mais de la volonté du Christ qui voit son cœur. Alors il peut lui dire de manière explicite qu'il veut être guéri, parce que le Christ en a la possibilité. Dans le deuxième cas, « Seigneur, mon serviteur est malade, il souffre atrocement. » Remarquez bien que c'est une simple exposition du cas. Il ne fait pas mention, j'allais dire explicitement, de sa foi en notre Seigneur. Et pourtant, cela est presque encore plus fort. Et si vous vous rappelez dimanche dernier, qu'a fait la Sainte Vierge à Cana ? Eh bien, elle n'a fait qu'exposer ce qui arrivait. Ils n'ont plus de vin. Sous-entendu, elle demandait un miracle. Sous-entendu, sa foi était extraordinairement grande. Et là, qu'est-ce que nous avons ? La même démarche. Seigneur, mon serviteur est malade. Combien de fois, mes bien chers amis, il faudrait prendre exemple sur ce centurion ? Ne pas forcément réclamer les choses de manière explicite, encore que nous en avons la possibilité. On voit que le Christ acquiesce et fait le miracle pour le lépreux, mais aussi exposer les choses. Il faut dire au Seigneur quelle est notre vie. Il faut dire au Seigneur quelles sont nos souffrances, quelles sont nos difficultés, quelle est notre vie, celle que nous vivons au jour le jour. Et alors, le Seigneur, si nous avons une foi extrêmement forte en nous, eh bien, il comprend. Il n'y a pas besoin de lui dire plus. Et il fera mille et mille choses pour nous. Dans les deux cas, la foi est immense en le pouvoir du Christ. Et la différence va être quand va intervenir le miracle et la manière dont le Christ va procéder. Dans le premier miracle, c'est une guérison par contact. Le lépreux va être touché par le Christ et cette force qui est dans le Christ, eh bien, va pouvoir guérir le lépreux lui-même et il va pouvoir retourner à une vie ordinaire, une vie sociale même qui lui était empêchée parce que les lépreux étaient mis à l'écart de la société et on comprend pourquoi. La guérison du serviteur, du centurion, est tout autre. Elle est par la parole. Et je crois que ici, justement, le premier miracle est pour nous montrer la grandeur de la foi du centurion. Il dit au Christ que celui-ci n'a pas besoin de se déplacer, que celui-ci n'a pas besoin de toucher le malade, parce qu'il lui suffit de dire une parole et le serviteur sera guéri. Il y a une foi encore plus grande du centurion par rapport au lépreux. Et d'ailleurs, le Christ ne s'y trompe pas puisqu'il dit qu'il n'a jamais vu foi aussi grande en Israël. Effectivement, le centurion, par humilité, ne désire même pas que le Christ vienne jusque dans sa maison. Il lui suffit que le Christ agisse par sa parole. Et je crois que s'il y a véritablement une foi profonde ici, c'est que, et que le Christ en est touché, c'est que le centurion reconnaît que le Christ est véritablement le Verbe de Dieu, la parole de Dieu qui s'est incarné. Ce n'est pas seulement celui qui s'est incarné, celui qui va pouvoir toucher, auquel cas on reconnaît que le Christ est vrai homme avec un véritable pouvoir divin derrière. Là, on va dire, dans la foi du centurion, il y a plus encore. Il y a qu'il reconnaît véritablement la personne divine comme étant, peut-être il le reconnaît implicitement, mais comme étant le Verbe de Dieu. Et comme quoi sa propre parole va pouvoir suffire à faire un miracle. Et je pense que c'est cela qui touche particulièrement le Christ. Reconnaissance de ce qu'il est en vérité, le Verbe, la parole de Dieu lui-même. Et le Christ aime cette foi, il aime ce centurion et il va faire le miracle, qu'il soit fait selon ta volonté. Et bien nous aussi alors, nous avons à retenir de ce double miracle une première chose, c'est de ne pas avoir peur de nous approcher du Christ. C'est lui qui a fait, j'allais dire, le plus grand pas, puisqu'il est passé du ciel jusqu'à nous. Nous, nous n'avons que très peu de chemin à faire, même si cela prend 10 minutes, une demi-heure pour venir à la messe le dimanche, ou quelques minutes pour aller dans une église. Le contact avec le Christ, il est là. Le Christ est dans le tabernacle. Il nous faut très peu pour avoir à être en contact avec notre Seigneur. C'est lui qui a fait la première démarche. Aimons à nous rapprocher du Christ, lui qui s'est fait proche de nous. Également, aimons à prier notre Seigneur et à développer cette prière de demande. Les deux, le lépreux et le centurion, n'ont pas peur de demander des choses extraordinaires au Christ. Eh bien, nous aussi, nous ne demandons pas assez au bon Dieu, ou alors nous demandons mal. Il faut savoir, parfois, demander de grandes choses. Et alors, le Christ, voyant notre foi, ne pourra qu'accéder à notre demande. Mais encore faut-il que nous ayons la foi, et c'est le troisième point qu'il nous faut travailler cette semaine, faire des actes de foi en le Christ. Pas seulement en sa toute-puissance, mais en ce qu'il est lui-même, à savoir, le Christ est vraiment le Verbe de Dieu, le Christ est vraiment la parole de Dieu. Demandons tout spécialement à la Sainte Vierge, de savoir nous rapprocher de Dieu comme elle l'a été. Il n'y a qu'elle qui a été aussi proche de Dieu, parce que la relation de maternité avec le Christ, est la relation la plus grande qu'un être humain puisse avoir avec le Christ. C'est elle qui a demandé au Christ pendant sa vie, et elle demande encore, parce qu'elle est celle qui intercède sans cesse pour nous auprès du Christ. Et puis, sachons avoir sa foi, elle qui a été louée par sainte Élisabeth, bienheureuse celle qui a cru dans les paroles du Seigneur, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.